Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin le député La France Insoumise du Nord, également coordinateur du parti. Ami auditeur, le standard est ouvert, vous pouvez intervenir, mais en raison du mouvement social que traverse actuellement Radio France, vous ne passerez pas à l'antenne et c'est donc moi qui lirai vos questions. Vous pouvez également passer par les réseaux sociaux et l'application mobile d'Inter. Adrien Quatennens, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être à notre micro ce matin. Avant d'en venir longuement à la réforme des retraites et à la nouvelle journée de manifestation aujourd'hui, quelques questions sur l'actualité judiciaire de votre parti, la France Insoumise. Des membres de LFI ont été condamnés à des amendes allant de 2000 à 8000 euros pour rébellion, provocation lors de la perquisition de vos locaux en octobre 2018. Jean-Luc Mélenchon écope également de 3 mois de prison avec sursis. Immédiatement, vous avez pointé un procès politique, cette décision de justice tombant selon vous, alors que vous êtes pleinement mobilisé contre la réforme des retraites voulue par le gouvernement. Mais on peine à comprendre en quoi est-ce un procès politique.
Bon, si vous peinez à comprendre, j'espère Nicolas Demanque, mes quelques arguments vont achever de vous convaincre.
C'est un procès
politique pour une raison, c'est il faut réinterroger sans cesse le fait générateur de ces perquisitions. Souvenez-vous que ce fait générateur, c'est 2 dénonciations sans preuve. Ce qui rend d'ailleurs le cas de la France Insoumise strictement incomparable à d'autres affaires. Parce qu'à un moment donné, on a eu cette ambiance qui consistait à dire « Oui, mais regardez, Monsieur Bayrou aussi, Madame Le Pen aussi, etc. etc. » Donc finalement, comme la justice touche à tout ça, tout se vaut. Non, absolument pas. Dans le cas de Monsieur Bayrou ou de Madame Le Pen, le Parlement européen les a mis en cause. Le Parlement européen, notez-le, n'a jamais mis en cause Jean-Luc Mélenchon s'agissant de ses assistants parlementaires. À l'origine de tout ça, vous avez une dénonciation sans preuve d'une eurodéputée FN, Madame Montel, qui avait d'ailleurs dénoncé 15 d'élus. Et je veux juste insister là-dessus, pour prouver qu'il y a bien une histoire politique derrière tout ça et qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Dans la 15 d'élus qu'elle a dénoncé sans preuve, vous avez aussi des gens à qui, je vous le dis, je ne souhaite pas le même traitement que celui qui nous a été réservé. Mais vous avez dedans Yannick Jadot, Madame Alliot-Marie. Est-ce que vous avez vu des perquisitions se déployer, sorte d'opération antiterroriste d'envergure inédite en politique, chez Monsieur Jadot,
pardon,
chez Madame Alliot-Marie?
C'est la réaction de Jean-Luc Mélenchon et des autres membres de la France Insoumise,
oui,
qui est jugé. C'est le
vous
fait
avez raison,
que
Léa Salamé,
la justice a estimé qu'il y a eu outrage à policiers, notamment.
Oui, vous avez raison, pour le résumer autrement et le dire plus vite, c'est le procès de ceux qui ont crié devant le palier de leur porte pour rentrer dans le local qui était le leur. Parce que ce matin-là, Léa Salamé, moi j'y étais, il y a 2 de mes collègues parlementaires, de stricts homologues, qui sont rentrés dans les locaux de la France Insoumise alors que la perquisition avait démarré et que personne n'a empêché de rentrer, et tout se passait bien. Et d'ailleurs, plutôt que d'avoir vu les images en boucle, les quelques secondes qu'on a vues pendant 1 an et demi, quand vous voyez la séquence complète de l'émission Quotidien, d'ailleurs sans laquelle il n'y aurait pas eu de procès, je vous le dis, eh bien vous voyez qu'en réalité nous n'avons jamais voulu nous opposer à la perquisition, mais c'est notre bon droit d'accéder à ce local.
On va pas refaire le match, si j'ose dire. C'est vrai que les images, on les a vues, La République c'est moi, Jean-Luc Mélenchon, ma personne est sacrée, etc. Ce qui s'est passé avec les policiers également. Et vous qui dites aujourd'hui que c'est un procès politique,
oui,
à vos yeux.
Oui, mais attendez, regardez, ce premier argument que je vous donne sur les assistants parlementaires, il est quand même valable. Est-ce que vous avez vu des perquisitions chez les 15 autres? Non. Pourquoi? Ça mérite d'être interrogé. Pensez-vous pas que ça ferait une enquête journalistique assez passionnante par ailleurs que de répondre à cette question? Et sur l'autre affaire, je vais être complet moi, l'affaire des comptes de campagne. Vous savez que les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon, la campagne la moins onéreuse si on considère le temps qu'on y a consacré, ont été validés sans irrégularité. Puis après, il y a eu cette bisbille interne à la commission qui a provoqué ce signalement. Mais attendez, les comptes de Monsieur Macron, eux, ils ont été signalés avec des irrégularités. Vous avez vu les perquisitions chez Macron et Castaner? Quelle heure il est là? C'est peut-être l'heure. Ils sont en train de sonner chez eux à cette heure. Donc vous voyez bien qu'il y a 2 poids 2 mesures qui fait que ça participe de cette ambiance où en fait l'État républicain s'érode et tout est cul par-dessus tête. Et à la fin, tout le monde est ridiculisé dans l'affaire.
Mais de dire aussi que la justice est aux ordres, puisque c'est ce que vous dites, ça contribue aussi à créer le flou autour des institutions républicaines.
Soyons précis dans ce que nous disons. Moi, je ne dis pas que la justice...
Quand on dit procès politique, ça veut dire que le juge qui a...
Laissez-moi le dire, Léa Salamé. Moi, je vous dis, il y a une instrumentalisation à des fins politiques des moyens de police et de justice. Oui, et le cas de la France Insoumise, d'ailleurs, n'est pas le seul, si on veut bien considérer ce qui se passe en ce moment. Et quand on dit la justice est indépendante en France, enfin, vous le savez, vous, que toute la justice n'est pas indépendante et que le parquet dépend hiérarchiquement directement de Madame Belloubet. Donc, quand celle-ci nous dit qu'elle n'était au courant de rien, alors qu'une opération d'une ampleur absolument incroyable contre la force politique qui était dite à l'époque comme toujours premier opposant Emmanuel Macron se déployait sur le territoire, qui peut raisonnablement penser qu'elle n'était pas au courant? Bref, oui, c'est un procès politique et moi je suis prêt à en débattre en long, en large et en travers, mais pourvu que cette comédie cesse, parce que ça fait maintenant 1 an et demi que notre vie politique est pourrie par ça et que entre le travail parlementaire et tout le reste, ce sont des auditions, etc. etc. Donc voilà, maintenant effectivement,
passons à autre chose. C'est pas beaucoup plus simple, je vais citer les propos de Maître Éric Dupond-Moretti, l'avocat des policiers, puis on passe au dossier des retraites. Il avait déclaré en septembre, on n'est pas au Venezuela, ici on est en France.
Comme c'est original.
Et quand on outrage un policier, on est condamné. Est-ce que c'est pas
c'est
ça?
C'est marrant, Nicolas Demorand. J'ai l'impression qu'on peut pas avoir un insoumis dans ces studios sans que le mot Venezuela ne vienne au micro. Ça finit par faire rire beaucoup de vos auditeurs.
Je l'ai cité.
Vous avez marqué un point, je note. Source. Je mets un bâton sur ma petite feuille.
Ok, sur le fond.
Non mais sur le fond, si vous voulez, voyez par exemple la tribune internationale qui a été signée. Il s'agit pas, sur le lawfare, vous savez, cette instrumentalisation de la politique et des moyens de justice. Il s'agit pas de mettre un signe égal entre tous les pays et toutes les juridictions. On a beaucoup moqué Jean-Luc Mélenchon en disant « il se compare à Lula ». Mais personne ne s'est intéressé du fait que Lula, lui, se comparait à Mélenchon en disant que oui, il y avait des éléments communs sur la manière dont les procédés étaient faits. Enfin, c'est pas tous les jours que je vais citer le pape, et surtout pas sur France Inter, mais le pape lui-même, quand il a donné une conférence de presse, a dit que lorsqu'il se déplaçait dans le monde, il observait que là où il y avait des processus démocratiques émergents, il y avait souvent des pots de bananes judiciaires qui tombaient, et oui, il dénonçait l'usage de la justice à des fins politiques. Vous savez, à près de 20% l'élection présidentielle, il est à peu près certain qu'on ne nous laisserait pas tranquille, pour tout vous dire.
Allez, le pape François, après le pape François...
Que pense-t-il des retraites ?
Que pense-t-il des retraites ? Ça, on le saura peut-être jamais.
Peut-être un jour.
Édouard Philippe annoncera demain l'architecture de la réforme Adrien Quatennens. Grandes lignes, derniers arbitrages. Qu'est-ce que vous attendez de l'intervention du Premier ministre ? Qu'est-ce que vous attendez de lui ?
Édouard Philippe n'annoncera pas demain les grands arbitrages. Demain, il va calibrer la quantité d'eau dans le verre pour faire avaler la pilule. Mais la pilule, on la connaît déjà. Il est prêt à beaucoup d'arrangements, d'ailleurs. On le verra demain pour la faire passer. La pilule, quelle est-elle ? Jusqu'à présent, notre système de retraite a plutôt bien fonctionné parce qu'à mesure que la part des seniors dans la population française augmentait, on a augmenté à peu près proportionnellement la part des richesses consacrées aux retraites. Et c'est la raison pour laquelle le taux de pauvreté des seniors en France a été plutôt contenu comparativement à nos voisins européens. Emmanuel Macron procède d'une rupture, lui il a choisi que l'objectif politique... c'est de ne pas consacrer une part plus importante des richesses aux retraites, c'est de plafonner au niveau actuel. Alors que toutes les projections démographiques montrent que la part des seniors, elle, va continuer à augmenter. La conséquence concrète, c'est quoi ? C'est que, à âge comparable, il faudra travailler toujours plus longtemps pour atteindre le même niveau de pension. Pour le dire autrement, le système par points, Léa Salamé, en fait, c'est l'outil au service d'un objectif. Qui est un objectif comptable, ne pas consacrer une part plus importante de richesse aux retraites.
Et alors la variable d'ajustement, attendez. Pourquoi la CFDT attendez, pour Pourquoi la CFDT
mais je sais pas, ça lui appartient. Moi, je vous explique pourquoi ça, je suis contre.
Ça vous fait pas réfléchir que la CFDT dise que c'est une réforme
mais moi,
équitable.
Tout me fait réfléchir. Les arguments, y compris de mes adversaires, de M. Blanquer, que j'ai entendu tout à l'heure, tout me fait réfléchir. C'est pas le souci. Moi, je suis en train d'essayer de décrypter ce que je vois être à l'œuvre. C'est que l'objectif est comptable. Et que la variable d'ajustement, en gros, c'est la vie des gens. L'âge auquel il faudra partir pour atteindre un bon niveau de pension, ou le niveau des pensions tout court. Et que d'ailleurs, les assureurs et les banques, Léa Salamé, les amis de Monsieur Delevoye, n'aident pas trop le gouvernement en signifiant trop fortement leur enthousiasme à l'idée que cette réforme s'accomplisse. Pourquoi ? Parce que si le système par répartition devient à ce point indigent, eh bien, en fait, celles et ceux qui auront les moyens vont être appelés à compléter leur retraite dans les systèmes par capitalisation. Alors moi, je pense qu'il faudrait faire le strict inverse, Léa Salamé. Il faudra avoir un objectif politique, en quelque sorte. Que voulons-nous pour nos vieux jours ? Quelle idée se fait un grand pays comme la France de ce que doit être la vie de ses seniors ? Moi, je pose des objectifs. Par exemple, qu'on parte...
Vous dites c'est la retraite à 60 ans,
Moi, je dis qu'on parte à un âge décent, c'est-à-dire un âge où on n'est pas cassé par le travail. On sait que l'espérance de vie en bonne santé dans notre pays est de 63 ans. Or, le rapport de Levoye nous montre que mécaniquement, ça reporte l'âge de départ pour avoir un bon niveau de pension. Vous avez la génération 1963, c'est le fameux âge de 64 ans. Mais regardez par exemple ma génération, celle de 1990.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Regardez votre date de naissance.
Oui, 1990.
Et bien, vous retraite à point, peut-être.
À 66 ans et demi. Moi, j'étais conseiller clientèle avant d'être député. Je vois mal mes collègues décrocher le téléphone du matin au soir jusqu'à 66, 67, 68.
Précisément, la CFDT dit que pour un jeune comme vous, le système par points est ce qui permet de remettre de la souplesse et de la rationalité dans des carrières hachées qui, aujourd'hui, ont du mal à atterrir dans le système de retraite tel qu'il est. Est-ce que le système à points n'est pas plus adapté au monde moderne ? Où on change de vie et de boulot plus souvent.
Non, le
que
système.
Par
d'abord, le système par points. Je vous le redis, c'est un outil au service d'un objectif comptable. Vous avez le même gâteau à table, vous voulez pas le grossir. Vous avez toujours plus d'invités autour de la table. Pensez aux fêtes de fin d'année bientôt. Le système par points vous permet juste de dire quelle est la taille de la part que je coupe pour ne pas cuisiner un gâteau plus gros. Et c'est une rupture avec tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, parce que ce qui a fait que notre système a fonctionné jusqu'à maintenant, même si depuis 30 ans il est sévèrement attaqué par toutes sortes de réformes libérales qui vont appauvrir les retraités si l'on ne fait rien, raison pour laquelle moi je défends pas le statu quo, mais le système par points va procéder d'un affaiblissement du niveau des pensions. Voilà, donc en quelque sorte, il n'est pas égalitaire. Par ailleurs, interrogeons-nous, est-ce que le fait de se dire tout le monde part d'une même ligne de départ est par nature égalitaire? Bien sûr que non, Nicolas Demorand. Vous avez dans ce pays un écart d'espérance de vie persistant entre par exemple un cadre et un ouvrier qui est de l'ordre de 6 années. Donc le système par points n'est pas plus égalitaire.
Mais pourquoi je comprends pas? Parce que chacun comptera son point. Ce que je veux dire, c'est que vous, c'est étonnant ce que vous dites. C'est intéressant. Votre cas particulier,
oui.
Avant de faire de la politique, aujourd'hui, oui. Vous comptabilisez vos points, si on est dans le système de points, en fonction de votre job de député. Mais avant, vous étiez conseiller clientèle. Vous auriez ramassé un certain nombre de points. Vous pourriez demain arrêter de travailler de 2 mois ou faire un petit job. Vous avez des points, alors que vous concevez quand même que vous m'accordez le fait que dans le système actuel, on doit se battre quand on change de carrière, quand on a une carrière hachée, ou quand on fait un petit job,
ou quand
on passe du privé au public,
ça
on doit se battre
si vous voulez,
pour dire si j'ai travaillé, comptez-moi mon trimestre.
Si vous voulez véritablement qu'on prenne en compte les carrières hachées, ce qui est une catastrophe, et d'ailleurs carrière hachée du fait d'une précarisation de l'emploi, il faut quand même le rappeler. Madame Pénicaud nous dit on n'a jamais autant embauché qu'aujourd'hui, on n'a jamais autant signé de contrats, ça c'est vrai. Mais quel type de contrat? Des contrats extrêmement précaires. 87% des contrats signés sont des contrats courts. Ça, c'est un problème aussi. Non, pour vraiment prendre en compte les carrières hachées, les assalamés, c'est pas le système par points qu'il faut faire. C'est faire en sorte que les périodes effectivement difficiles dans la vie, par exemple, période où vous êtes au RSA, soient prises en compte dans le calcul de votre retraite. Ça, c'est une proposition que nous, on formule à la France Insoumise, qui permet véritablement de lutter contre les carrières hachées.
Mais... Donc, philosophiquement, vous qui avez réfléchi au sujet,
oui.
Vous dites c'est un mauvais système.
Mais
système
évidemment, le système par points, entendez-le, ça n'est qu'un outil pour, en gros, ne pas dépenser plus, ne pas dépenser une part plus importante des richesses sur les retraites. Et donc, je vous le dis, la conséquence sur la vie des gens, sur ceux qui nous écoutent, c'est qu'il faudra travailler toujours plus longtemps. Mais ça, d'ailleurs, le gouvernement l'admet. Hein, il vous dit qu'il faudra travailler plus longtemps. Mais moi, j'interroge. Est-ce que travailler plus longtemps, ça fonctionne aujourd'hui, Léa Salamé?
En Allemagne, ils sont passés de 65 à 67 ans. Aux Pays-Bas, à 67 ans. En Belgique, ils sont passés de 65 à 67 ans. Ils sont tous complètement fous de se dire on vit plus longtemps, on travaille plus longtemps?
Je ne sais pas s'ils sont tous complètement fous, mais en tout cas, la France me paraît plus raisonnable de ce point de vue. Je vous dis pourquoi. Enfin, aujourd'hui en France, vous avez un actif sur deux à l'âge d'arriver en retraite qui n'est déjà plus en emploi. Donc déjà, travailler plus longtemps, ça ne fonctionne pas aujourd'hui en France. Vous avez 300 000 chômeurs de plus de 60 ans en France qui, pour l'écrasante majorité d'entre eux, ont leurs années de cotisation. Léa Salamé, songez que augmenter le temps de travail dans la vie, c'est aggraver le chômage aux deux extrémités de la vie active. D'un côté, le chômage des seniors, de l'autre côté, le chômage des jeunes qui peinent à s'insérer dans l'emploi. Mais surtout, il y a une hypocrisie quand M. Macron nous dit « on vit plus longtemps », ça paraît tomber sous le sens hein, quand on le dit. Mmh. On vit plus longtemps, donc faut travailler plus longtemps. Mais mesdames, messieurs, c'est notamment parce que la durée du temps de travail dans la vie a diminué que l'espérance de vie a augmenté. D'ailleurs, précisément, l'espérance de vie est fonction de l'âge auquel vous partez en retraite. Donc on voit bien l'absurdité du système. Donc moi, je redis très précisément, arrêtez d'écouter ce que vous dit ce gouvernement sur l'universalité. Qui peut penser d'ailleurs, de la part du gouvernement d'Edouard Philippe, qui s'est employé dès son arrivée au pouvoir, de déstructurer une règle commune, le code du travail, pour faire en sorte que précisément il n'y ait plus l'universalité, mais que tout se négocie entreprise par entreprise. Non, ils ne sont pas soucieux de l'universalité. L'universalité, c'est la goutte d'eau pour effectivement
faire
passer la
pilule. Monsieur le député Quatennens, on voit la SNCF, la RATP, la fonction publique en grève ou dans les rues. Le secteur privé, à ce stade, ne suit pas vraiment, alors que les nouvelles règles, pourtant, le concernent. Leur pension pour les salariés du privé sera désormais calculée sur la carrière entière et non plus sur les 25 meilleures années, ce qui sur le papier n'est pas forcément avantageux. Alors pourquoi, selon vous, ils ne se mobilisent pas ?
Peut-être parce qu'ils sont moins habitués à ces formes de mobilisation. D'ailleurs, bon, on peut considérer que votre message à l'instant est un appel à la grève pour le secteur privé.
C'est une question.
Pourquoi pas ? Non, en tout cas, dire une chose, c'est que oui, vous avez raison de considérer. Moi, en tout cas, je le dis très clairement. Je vais le traduire à votre micro. Je considère que les grévistes comme les non-grévistes aujourd'hui ont un intérêt commun. Et d'ailleurs, je m'adresse à celles et ceux qui, peut-être à cette heure, nous écoutent depuis les embouteillages, subissent la grève. Vous avez intérêt, effectivement, à ce que le mouvement social réussisse et songez qu'il vaut mieux quelques semaines de galère, même si j'entends que c'est difficile, qu'une retraite de misère.
Est-ce que vous pensez
à ceux qui ont leurs
enfants à charge, qui doivent faire 3 heures de transport aujourd'hui pour aller au travail? Est-ce que vous avez une pensée pour eux?
De toute évidence, j'en ai une. Et je pense qu'on peut s'entendre sur quelque chose qui se résume en peu de mots. Oui, la grève, c'est difficile. Oui, c'est difficile pour ceux qui la subissent comme pour ceux qui la font. Qui perdent du salaire, qui peut-être ne pourront pas faire de cadeaux à leurs gamins dans quelques jours. Mais j'ai une certitude, je vous le dis, c'est qu'il faut se serrer les coudes. Même si c'est difficile, même si on passe beaucoup de temps à commenter les effets de la grève, il vaut mieux quelques semaines de galère qu'une retraite de misère. Voilà ce que je veux vous dire, les amis qui nous entendent et qui subissent aujourd'hui les conséquences de la grève.
Adrien Quatennens, est-ce que vous aussi, ce matin, vous donnez un satisfecit à Marine Le Pen parce que, je cite, elle a fait un progrès en direction de l'humanisme en soutenant la mobilisation contre les retraites?
Si je le faisais comme Jean-Luc Mélenchon, je ferais beaucoup d'ironie, Léa Salamé, vous l'aurez compris.
Ah, donc personne... En fait, c'était de l'ironie ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon.
Oui, mais vous avez le droit de ne pas le croire, mais je pense que ça se voit sur la séquence vidéo. Enfin, c'est une évidence. Qui peut raisonnablement croire, d'ailleurs, que Madame Le Pen... se situe dans le camp du mouvement social. Vous savez, moi je pense que face au Rassemblement National, il faut peut-être adapter la méthode. Parce que ça fait des décennies maintenant qu'on crie au fascisme, qu'on fustige l'extrême droite, et le résultat c'est qu'elle ne fait que grimper. Donc il faut assumer le combat des idées de face avec Madame Le Pen, droit dans les yeux, et lui dire, en quelque sorte, et prendre à témoin ses électeurs. Vous savez, parmi l'électorat du Front National en France, vous avez bien évidemment des gens qui peut-être sont foncièrement racistes, convaincus par les visées ethnicistes de Madame Le Pen, mais vous avez tous les autres qui expriment une colère, et qui pensent que finalement, la meilleure manière d'exprimer cette colère, c'est le vote pour Madame Le Pen qui serait un bon coup de pied aux fesses à tout le système. Moi, je m'adresse à eux. Je leur dis, vous faites une erreur, les amis, et en quelque sorte, en votant pour Madame Le Pen, si on applique son programme, y compris à vos propres intérêts, c'est à vous que vous mettez le coup de pied aux fesses. Depuis un an et demi, le pays s'est soulevé et mobilisé pour une meilleure répartition des richesses. Madame Le Pen, c'est celle qui met sur ses listes européennes des gens qui sont pour la suppression de l'ISF, dont on voit les effets sur l'économie.
Mais
vous réclamez
retraites...
des hausses de salaire, Madame Le Pen, elle passe son temps à dire qu'elle est contre la hausse du SMIC. Donc si vous voulez, si Madame Le Pen est l'expression d'une colère, franchement, c'est un pétard mouillé. Il vaut mieux avoir la colère propulsive.
Vous dites qu'il faut qu'on assume le combat d'idées avec le Front National. Avec le Rassemblement National. Sur les retraites, il n'y a pas vraiment de combat d'idées à mener parce que vous dites la même chose. En l'occurrence, vous êtes pour la retraite à 60 ans.
Non, moi j'ai bien écouté Mme Le Pen, elle fait de la pure incantation, c'est-à-dire elle dit la retraite à 60 ans, puis après, quand on lui demande comment elle la finance, elle dit par le plein emploi. Comme si le plein emploi, ça se décrétait en signant un papier. Non, moi quand je vous dis, je souhaiterais qu'on ait pour objectif de permettre aux gens de partir à 60 ans avec un bon niveau de vie, qu'aucune pension pour une carrière complète ne soit inférieure au SMIC et qu'aucune pension tout court, y compris s'agissant des carrières soit inférieur au seuil de pauvreté. Quand le gouvernement vous dit 1000 euros minimum, c'est pour une carrière complète. C'est-à-dire que dans quelques années, avec la revalorisation du minimum vieillesse, vous allez l'avoir de toute façon. Et bien moi, je fixe des éléments pour financer qui sont assez précis. Par exemple, quand on parle de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, l'inégalité est de 20% en moyenne dans ce pays. C'est beaucoup de cotisations en plus. Et puis surtout, moi, je mène le combat de face aussi face à Emmanuel Macron, qui depuis 2 ans et demi nous raconte que quand il baisse les cotisations, il augmente votre pouvoir d'achat. En fait, non.
Monsieur
baissez vos cotisations. Je termine juste, Nicolas Demorand. Je vois que tout ça vous fait bien rire.
Non, ça me fait pas rire, baissez... mais j'ai des questions des auditeurs à vous transmettre. Ça me fait pas rire du tout.
Quand on baisse les cotisations, en quelque sorte, on affaiblit la prise en charge demain de la retraite, de la santé. Donc c'est un cadeau empoisonné. Voilà des solutions pour financer les retraites. Pas juste de l'incantation et le fait qu'on décrète les choses comme le fait Madame Le Pen.
Paul vous pose la question suivante. Pourquoi ne pas défendre l'idée que la valeur du point ne soit pas gérée par le gouvernement, mais par une institution indépendante multiparitaire inscrite dans la Constitution?
Vous savez, tout ça n'a pas empêché aujourd'hui, y compris la gestion paritaire, que des réformes libérales se passe, qui augmente la durée de cotisation, qui font en sorte que vous partez plus tard à la retraite. La valeur du point, ça va être central, parce que même si le gouvernement nous dit qu'elle ne baissera pas, tout ça est extrêmement technique, j'en suis désolé, mais vous avez le coefficient de conversion, vous avez la valeur du point comparativement au salaire. Ce qui va se passer avec le système à points, pour vous le dire très clairement, c'est que si l'espérance de vie augmente dans votre génération, la valeur du point va baisser. C'est-à-dire, en gros, c'est un calcul qui fait que vous avez intérêt à ce que dans votre génération, on meure plus vite si vous voulez un meilleur niveau de pension. Parce qu'il y a bien la répartition du gâteau. C'est vraiment ça, le système par points. Donc ça va être
l'affaire
centrale.
Mais l'idée qu'il soit géré par les partenaires sociaux, comme le suggère notre auditeur, vous semble exclu.
Nicolas Demorand, moi, l'objectif prioritaire et celui qu'il faut renouveler ce matin, c'est celui du retrait de la réforme par points et de cette philosophie qui vise à contenir les dépenses consacrées aux retraites. Ça ne colle pas avec le modèle social français. Donc je ne vais pas commencer à discuter avec vous des modalités de gestion de la valeur du point. Mais je vous le dis, oui, la valeur du point et ce que ça pèse sera la variable d'ajustement pour faire en sorte effectivement que les pensions baissent. Et donc vous pourrez ensuite aller voir les amis de Monsieur Delevoye, comme je le disais, les assureurs, les banques, qui eux se réjouissent de cette affaire. D'ailleurs, vous avez vu dans la loi Pacte récemment, on a toutes sortes d'incitations à la capitalisation. Moi, ça fait quelques fois là que je fais des matinales sur le sujet des retraites. Quand il y a de la publicité avant mon passage, en général, sur 4 publicités, on a au moins 2 ou 3 pour les retraites par capitalisation. Évidemment que c'est ce qui va se passer. Comprenez que pour ces gens-là, 300 milliards d'euros dans les caisses de la sécurité sociale, 300 milliards d'euros qui sont entre les mains des travailleurs, c'est insupportable, ça leur colle l'urticaire. Donc là, en quelque sorte, ils ont trouvé le moyen d'opérer un transfert de richesse des caisses de la Sécu vers le privé. C'est ça l'objectif inavoué.
Question de fond et de méthode que vous pose Martin concernant donc cette réforme des retraites. Pourquoi avoir réagi si négativement avant même de savoir ce qu'il y a dans cette réforme qui sera dévoilée demain? Et pourquoi ne pas attendre, deuxième question, de voir participer au questionnaire et au débat de manière constructive?
Bon, la question montre que j'ai peut-être pas été assez clair depuis le début de l'entretien. Je veux vous dire qu'il n'y a pas besoin d'attendre ce qui va être déroulé demain pour comprendre l'objectif. Ce qui va se passer demain, c'est que pour ne pas renoncer à l'objectif qui est celui que je viens de décrire, limiter les dépenses consacrées aux retraites par le système par points, Édouard Philippe va être prêt à faire la danse du ventre pour plein de professions.
Si la danse du ventre, pour reprendre vos termes, c'est annoncer qu'ils augmentent les enseignants, est-ce que la danse du ventre ne vaut pas le coup?
Mais non, moi d'ailleurs je dis aux enseignants qui m'entendent, ne vous contentez pas de ça. Ce qu'il faut obtenir, c'est le retrait de la réforme du point.
Oui, je l'ai entendu. Il dit que cette réforme des retraites va être l'occasion d'augmenter, de revaloriser à la fois les salaires des professeurs et d'avoir des primes.
D'abord, est-ce qu'on fait confiance au gouvernement pour revaloriser les salaires des enseignants? Moi, je vous le dis très franchement, non. J'attends de le voir. Mais ensuite, quel va être le montant? Parce que quand on nous annonce une enveloppe de 450 à 500 millions d'euros, compte tenu des effectifs de professeurs, ça fait une augmentation de salaire de combien? 37 euros par mois, Léa Salamé. Alors que toutes les projections s'agissant de la retraite des professeurs montrent que le système par points affaiblirait de presque plus de 500 euros par mois leur niveau de pension. Donc c'est ridicule. Non, entendez-moi, le fond de l'affaire sur lequel le gouvernement ne veut pas plier est déjà décidé. Donc dans les commentaires médiatiques, quand on dit « attendez de savoir ce qui va en être », non, pas besoin d'attendre. Le fond de l'affaire et leur objectif,
c'était la promesse de campagne. Pardon de vous le dire, c'était la promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Sur le coup, il l'avait annoncé.
Monsieur Macron avait annoncé une réforme par points dont l'objectif était de limiter le montant des pensions et la valeur, disons, de la richesse produite consacrée aux retraites.
Il avait annoncé une réforme systémique par points.
Moi, ce que je veux vous dire, il y a plein de jeunes, parmi ceux qui peut-être nous entendent, qui ne croient même plus au système de retraite. Moi, je veux vous dire, on a toujours fait ça jusqu'à présent. Fixons-nous un objectif politique. Quelle idée ce pays se fait de ce que doit être ce troisième âge de la vie qu'est la retraite? Enfin, on a l'impression, depuis le début du débat sur les retraites, d'entendre un débat entre calculatrice et fichier Excel. Non, la retraite, c'est un troisième âge de la vie où on s'engage beaucoup pour soi, pour ses proches. Il faut y d'ailleurs quantifier les économies que font faire les retraités dans ce pays. Et donc, on doit pouvoir se fixer pour objectif à quel âge voulons-nous partir quand on sait que l'espérance de vie est à 63 ans. Et on adapte les finances, on adapte les ressources en fonction de l'objectif. Le gouvernement fait le strict inverse.
Une dernière question, Adrien Quatelin, ce qui nous ramène au début de notre entretien. Pourquoi avoir agi avec violence lors de la perquisition alors que vous êtes sans reproche? Vous demande notre auditeur, n'eût-il pas été plus efficace de dénoncer cette perquisition à son issue? Est-ce que vous avez des regrets? Donc, je prolonge la question de cet auditeur de France Inter.
Vous savez, on peut toujours, a posteriori, refaire l'histoire. Ce jour-là, nous avons été piqués au vif. Une opération de police quasi antiterroriste déployée contre nous. Alors qu'en 40 ans de vie politique, Nicolas Demorand, jamais personne n'a pu faire la démonstration de la malhonnêteté de Jean-Luc Mélenchon. Ça n'a pas démarré aujourd'hui. Donc oui, nous nous sommes sentis victimes d'une injustice ce jour-là. Alors après, on peut dire effectivement, vous avez crié fort devant une porte. Mais quand on regarde toute la séquence, on ne peut pas nous retirer que nous n'avions rien à cacher et que nous n'avons pas voulu nous opposer à cette perquisition. Maintenant, c'est l'heure de refaire de la politique. Il y a des batailles plus centrales que nos affaires à nous.
Adrien Quatelin, merci député La France Insoumise.
Merci à vous,
du Nord et coordinateur du parti.